Sur Radio Campus Tour, vous écoutez La Méridienne. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes lundi et si ça vous déprime, dites-vous que ça pourrait toujours être pire. Et qu'à l'échelle de l'univers, nous n'existons même pas. Alors, en fait, pourquoi s'en faire ?
Il mondo è una gran palla, c'è chi affoga e chi sta a galla, chi si lagna senza un perché. Chi vive nei piaceri, c'è chi ha solo dispiaceri, c'è chi invece fa come me. Io son pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. Se casca il mondo, non mi confondo, che cosa importa mai a me? Io non ho un soldo, ma lagnarsi che...
Merci Vittorio De Sica pour cette entrée en matière. Et nous commençons cette méridienne par la chronique... littéraire, chronique livre et papier de Joseph.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, un homme devient subitement aveugle, puis un autre, plus un, encore un autre. Débute alors une véritable pandémie de cécité lorsqu'un homme dont on ne connaît pas la moindre information se retrouve subitement aveugle au volant de son véhicule. Ici, José Saramago nous permet d'imaginer ce que serait le monde et l'être humain avec un bandeau sur les yeux. Quelques mots sur l'auteur. José Saramago était un écrivain, journaliste et poète portugais, reconnu internationalement pour ses œuvres et son style si particulier, délaissant le rythme traditionnel d'un livre, d'un chapitre et même d'une phrase. Il sera récompensé par le prix Nobel de littérature en 1998. L'écriture de Saramago conjugue les styles directs et indirects et se caractérise par de longues phrases rythmées par de nombreuses virgules. Il est connu pour avoir déclaré « J'écrivais un roman comme les autres. Tout à coup, à la page 24 ou 25, sans y penser, sans y réfléchir, sans prendre de décision, j'ai commencé à écrire avec ce qui est devenu ma façon personnelle de raconter, cette fusion du style direct et indirect, cette abolition de la ponctuation réduite au point et à la virgule. Je crois que ce style ne serait pas né si le livre n'était pas parti de quelque chose que j'avais écouté. Il fallait trouver un ton, une façon de transcrire le rythme, la musique, de la parole qu'on dit, pas celle qu'on écrit. Ensuite, j'ai repris les 20 premières pages pour les réécrire. On apprécie dans ce roman intitulé donc « L'aveuglement », l'humain, voire même la dérision de Saramago à propos de la condition humaine. Ce roman constitue un mélange de fiction sociale et un cadre psychologique particulièrement saisissant. Mais au-delà de la première lecture de ce roman, je ne saurais que vous conseiller de le relire afin de mettre en lumière le rythme qu'a voulu imposer Saramago dans son œuvre. En effet, le non-espace accordé par l'auteur aux yeux au lecteur sur chaque page, à travers une abondance de mots, ne constituerait-il pas une sorte d'aveuglement ?
C'était la chronique livre et papier de Joseph. Nous écoutons à présent Fima Efron, Yashkar sur l'album Soul Machine.
Thank you.
Nous écoutions Shima Efron, Yashkar, album Soul Machine. Vous écoutez toujours La Méridienne sur Radio Campus Tour. Et nous allons à présent écouter une interview de Jean-Pierre Blanchard, interview réalisée par Sam, 14 ans, jeune reporter. Vous retrouverez également cette interview en ligne sur le blog des jeunes reporters au pluriel, 13ans18ans.fr.
Bonjour, je m'appelle Sam Dereux, j'ai 14 ans, je fais partie de l'association des jeunes reporters 13-18 et j'interviewe Jean-Pierre Blanchard aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Quelle est cette manière si particulière de peindre ? D'où vient cette manière ?
Tu parles au niveau de ce que je fais en spectacle ?
Oui.
Ah d'accord. Ben, parce que en fait, moi quand j'étais petit, je voulais faire de la musique, je voulais être chef d'orchestre. Et puis en fait, au lieu de prendre une baguette, j'ai pris des pinceaux, puis j'ai trouvé que c'était très bien, donc j'ai continué comme ça.
Voilà. Ah.
Non, puis je trouvais que c'était très intéressant d'allier la musique et la peinture, parce qu'en termes d'émotion, c'est des choses qui se partagent très très bien.
D'accord. Est-ce que vous répétez vos dessins ou vous vous entraînez avant d'aller sur les spectacles ?
Pas systématiquement. Si c'est des émissions de télévision, oui, il y a toujours des répétitions avant. Mais en général, pour du spectacle privé, non, pas forcément, non.
Combien de temps peut durer un spectacle maximum ?
Ça dépend ce que je fais. Parce que en fait, moi, je fais souvent des prestations qui durent maximum 5 minutes. Le temps de faire un portrait, mais par exemple, ça peut durer aussi pendant une heure et demie ou deux heures. Si par exemple je fais une fresque dans le cadre d'un congrès professionnel, par exemple, si je peux faire des fresques jusqu'à 10 mètres de long, et donc là ça peut durer une heure et demie, deux heures.
D'accord. Combien de temps prend une statue à être faite, comme par exemple le fameux chien
Le temps pour faire c'est très difficile à définir parce que il y a le fait de faire la statue, la réaliser d'abord en terre et puis après ça prend un certain temps, mais c'est pas ça le plus long. Après il faut faire des moules. Du moule on fait un tirage en plâtre, de ce tirage en plâtre on le retravaille et on refait un moule après en élastomère et puis après ça part en fonderie pour faire des bronzes. Donc ça demande souvent plusieurs mois.
D'accord. Alors pourquoi être venu à Chinon et pas autre part
Parce que c'est une ville que j'adore. Voilà, tout simplement. Je suis venu là parce qu'il y a de la convivialité, il y a les gens qui sont très sympas et tout. Voilà. C'est la raison première. Ouais. Et comme je voyage aussi beaucoup un petit peu partout en France et même à l'étranger, c'est très facile de se déplacer d'ici aux quatre coins de la France parce que la Touraine c'est un carrefour autoroutier.
D'accord. Est-ce que vous vendez vos statues ?
Oui.
D'accord. Est-ce que votre entrepôt se visite ?
Oui, en dessous, oui, tout à fait, oui.
C'est une entrée gratuite ?
Ah oui, tout à fait, oui, oui bien sûr.
Bah, merci.
Ah ben voilà.
Merci, au revoir.
Merci à notre jeune reporter Sam pour cette interview de Jean-Pierre Blanchard. À présent, un reportage radio réalisé par Radio Parleur. Reportage sur la précarité étudiante suite à l'immolation d'un étudiant devant le Crous de Lyon.
Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
À des loyers plus accessibles parce que c'est intolérable que les loyers, les crous qui sont salubres, ben ils soient plus chers. Hein. C'est un peu ridicule, on se retrouve à devoir payer pour des logements insalubres dès que l'on peut se faire expulser en plein hiver. C'est absolument scandaleux. Bref, on demande des repas de crous gratuits et on demande, tant qu'à faire, au moment de la révolution.
Je suis Denis Poura, je suis enseignant à Sud Éducation Solidaire. Mais on est là suite au drame qui a eu lieu vendredi dernier. C'est pas seulement un drame, c'est une conséquence politique de la précarité généralisée à tous les étages et de la ponction des richesses qui a lieu des plus pauvres et de la plus grande partie de la population vers les plus riches. Et vendredi, on a atteint l'irréparable et c'est absolument insupportable et ça doit plus se reproduire. Et pour que ça se reproduise plus, il faut que le système change, quoi.
Justement, vendredi, ça a été quoi votre réaction ?
Ça a été une grande peine d'abord et une consternation parce que c'est un camarade de l'Union syndicale solidaire et mélangé à une révolte insoutenable, quoi. Même dans mon secteur, l'éducation, il y a de plus en plus de collègues qui craquent. Il y a eu, je ne sais plus combien, 52 suicides, je crois, sur l'année qui s'est passée. Les collègues contractuels sont de plus en plus nombreux. Les collègues qui démarrent ont du mal à se loger dans les agglomérations puisque les salaires sont bloqués depuis des années. Donc oui, la précarité, elle est à tous les étages. On la voit dans les territoires un petit peu partout. Moi, j'habite un peu à l'extérieur de Lyon, à la campagne. On n'a plus de poste, on n'a plus rien. Quoi.
Je m'appelle Mathilda Ruiz et je suis en L2 de sciences politiques comme celui qui s'est immolé et du coup je suis venue apporter mon soutien. Je trouve que le vrai drame c'est qu'on se rend compte du problème avec un drame en fait, avec un étudiant qui s'immole, c'est horrible. Je trouve ça pas normal qu'on doive en arriver là en fait. Même si je défends pas toute la lutte solidaire, etc., je trouve ça important d'apporter mon soutien. C'est quelqu'un de ma fac, de ma promo, c'est un étudiant. Je suis pas dans la même situation que lui. Enfin, je l'étais pas, mais je trouve que c'est important de montrer que je m'y intéresse et que c'est une lutte que je défends. Parce que être étudiant, c'est se serrer la ceinture sur certains moments. Quand on n'a pas les parents qui peuvent suivre, ça devient vraiment difficile, quoi, même avec les aides de l'État. Hein.
Étudiante en sciences politiques à Lyon 2. Je suis aussi militante à Solidaire étudiante Lyon. Et je suis aussi la petite amie de l'étudiant qui s'est immolé par le feu.
Comment tu vas ?
C'est compliqué. Je réalise toujours pas ce qui s'est passé. J'ai pas le temps de m'effondrer. C'est pas le moment. Il nous a demandé de continuer de lutter, moi et les camarades. Donc c'est ce qu'on va faire. Là, c'est le moment pour parler, pour agir politiquement, pour faire bouger les choses. Pour moi, c'est pas le moment de m'effondrer. Et on peut rien faire pour l'instant, on peut juste lutter. Je suis assez émue, je pense pareil pour tous les camarades qu'ils connaissent, qu'il y ait autant de monde, que les gens soient... qu'il y a plein de gens en fait qu'on connaisse pas et qui sont pas militants en fait qui sont là, donc on voit que ce qu'il a dit ça résonne pour plein de gens et pas forcément des gens socialisés à la politique ou politisés mais aussi à tout le monde en fait, parce que la précarité ça touche tout le monde, donc je pense que c'est bien qu'on se rassemble pour faire bouger les choses et aussi entre nous pour parler de cette précarité et qu'on arrête de considérer ça comme normal ou honteux.
Justement, cette précarité, tu la ressens au quotidien ?
En tant que syndicaliste, oui. Personnellement, moi, pas trop. Mais comme je dis, je normalise aussi. Enfin, je suis un peu en galère, mais ça va, quoi. Ouais, les étudiants sont... Et les étudiantes sont en galère pour trouver des logements décents. On est obligé de galérer pour manger, de sauter des repas, de pas se soigner, de bosser en plus de ses études. Donc la précarité, on la voit tout le temps. Et en tant que syndicaliste, on voit des cas qui sont vraiment horribles. L'année dernière, on a eu des gens qui étaient à la rue, en fait, parce que le CROUS voulait pas les aider et ne pouvait pas les aider. Donc on s'est retrouvés à en héberger certains pour éviter qu'ils dorment dehors, en fait, en plein automne, en plein hiver. Des étudiants qui sont en détresse, il y en a énormément. Et en fait, il n'y en a pas beaucoup qui le disent. Il y en a beaucoup qui arrêtent les études et puis qui on le sait pas en fait, qui vont pas bien et qui sont en détresse. Il y en a qui font des tentatives de suicide. C'est deux fois plus, je crois, d'étudiants qui font qui se suicident que par rapport à la classe d'âge des 15-30 ans. Donc ça veut dire qu'il y a un gros problème et en fait on n'en parle pas. Et là on commence à en parler et c'est plutôt bien, juste qu'on comprenne au moins que bah, c'est pas normal et qu'il faut qu'on se batte et qu'on soit solidaires entre nous. Je pense que ça m'a fait même déjà bouger les lignes un petit peu, juste pour les étudiants, de se dire ok, je suis en galère, mais je suis pas le seul ou je suis pas la seule, et en plus c'est pas normal et c'est pas de ma faute. C'est pas ma faute à moi si je suis en galère et que mes parents ils ont pas beaucoup d'argent ou qu'ils peuvent pas m'aider ou que j'ai du mal à trouver un boulot et réussir mes études. Bah non, en fait c'est un problème systémique et c'est pas un problème individuel. C'est pas nous c'est pas notre faute si on est pauvre ou on est en galère. C'est la faute collectivement de l'État, des gouvernements qui nous permettent pas d'assurer les moyens pour qu'on puisse vivre et étudier de façon décente en fait.
Je m'appelle Juliette.
Tu es étudiante ?
Oui.
En quoi ?
Je suis en master de lettres modernes. Je suis là aujourd'hui parce que je trouve ça important de soutenir un camarade qui a tenté d'attenter à sa vie. Et aussi parce que je pense que on ne changera rien sans action collective et sans rassemblement de tous les étudiants qui sont touchés par les mesures criminelles de Macron et de son gouvernement en fait, contre les jeunes. Et je suis solidaire de mes camarades boursiers, parce que je ne suis pas boursière moi-même, mais je pense que c'est des mesures qui touchent d'abord les boursiers et le traitement qui est... Enfin, je trouve inadmissible en fait le traitement qui est imposé aux étudiants qui n'ont pas les moyens de payer leurs études, de financer leurs études. Il n'y a qu'à voir en fait les conditions dans lesquelles on est forcé d'étudier en fait, parce que je veux dire, il y a la moitié des étudiants qui sont salariés, alors que je veux dire, on a 20 ans, donc on n'est pas censé travailler normalement, on n'est pas censé être dans une situation de salariat. Et en plus, en fait, les étudiants qui sont salariés, ils sont dans une position où c'est beaucoup plus difficile de réussir leurs études et d'avoir un diplôme, étant donné qu'ils sont déjà salariés par ailleurs. Et en plus, tout ce système de... Je suis pas experte en bourse, mais il me semble quand même que tout ce système de... À partir du moment où tu te bats pour tes droits, t'es défaillant et donc du coup tu perds ta bourse et t'es encore plus dans la précarité alors que normalement tu devrais... Enfin voilà, c'est inadmissible en fait. Et cette précarité-là, elle touche aussi en fait ceux qui vont travailler dans la fonction publique et particulièrement les enseignants. Et du coup, je me sens aussi solidaire des enseignants de ce fait. Donc,
étudiant à Lyon 2, en master 2 de Sciences Po. Voilà. Moi, je suis là aujourd'hui pour montrer ma solidarité vis-à-vis de Anas, que je connaissais déjà personnellement, avec qui on a eu beaucoup de différents politiques, certainement, mais en même temps, d'un autre côté, c'est un camarade, et en fait, son geste, il a été longuement prémédité, il a réfléchi longuement, du coup, personne n'était au courant, enfin... Il y a quelque chose d'un peu quelque chose de politique dans son geste, et du coup en fait c'est pour ça qu'on est tous rassemblés aujourd'hui, en dehors des petites bagarres politiciennes qui peuvent exister, etc. Parce que en fait ça pourrait arriver à n'importe qui d'entre nous, et la précarité ça touche les étudiants, et les étudiants qui ont 400 euros pour vivre par mois, bah au bout d'un moment on voit ce que ça donne, quoi. La politique criminelle du CROUS, de l'État, du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de l'Enseignement supérieur. Et à mon avis, il faut pointer du doigt les responsables de ça, parce que les vrais responsables, c'est pas lui, le responsable, ses amis, c'est pas... En fait, les responsables, c'est l'État qui a permis, du coup, que des situations de précarité telles se développent, et sans aucun contrôle, sans aucune aide, en fait, de leur part, et du coup, c'est catastrophique, quoi. Bah moi, en tant que militant communiste et militant syndical également, je suis tous les jours confronté à la précarité. Moi également, je dois travailler pendant mes études pour financer mes études. Je milite justement aux côtés des travailleurs qui sont plongés dans le chômage, dans la précarité, dans un but d'amélioration des conditions de vie, d'amélioration des conditions d'études. Et c'est important, en fait, de se mobiliser et de militer, en fait, au quotidien, plus que d'être là aujourd'hui. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut se mobiliser, il faut lutter, en fait, au quotidien. Et il faut pas attendre que des événements comme ça se passent pour sortir à 10 000 dans la rue. Il faut qu'on soit dans la rue tout le temps, il faut qu'on batte le pavé. Par exemple, on se mobilise toute l'année et on essaye d'éviter que ce genre de choses adviennent. Et c'est par les luttes collectives et par la puissance des travailleurs, des étudiants, des prolétaires entre eux que ce genre de choses, il arrivera pas. Et si le mec, il était tout seul dans sa vie, pas écouté, etc., bah évidemment que ça peut amener à des situations irrémédiables. Ça fait quelques années quand même que je suis militant. J'ai du mal à penser que tous les gens qui sont là vont continuer à se mobiliser à l'avenir sur les questions de précarité étudiante, de crous, de... Enfin, voilà, quoi.
Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.
C'était un reportage proposé par Radio Parleur. Nous écoutons à nouveau Fima et Front. Pyramide, toujours sur l'album Soul Machine. la Méridienne sur Radio Campus Tours. Nous écoutions Fima et Front. Et à présent, un peu de légèreté avec une chronique de la Bibliothèque Municipale de Tours. Nos bibliothécaires nous proposent la lecture d'un album qui s'appelle Le Type.
Oui, bonjour, alors c'est la Bibliothèque Municipale de Tours sur Radio Campus Tours et moi mon truc c'est la BD, donc tout à l'heure je vous parlerai de BD.
Aujourd'hui, sur Radio Campus Tours, on fait escale à la Bibliothèque de Tours.
Excusez-moi, je dis que des bêtises. Non, mais bien les yeux de Mélissa que je dis que des bêtises.
Des BD, des mangas, en vois-tu, en voilà, à la Bibliothèque Municipale de Tours sur Radio Campus Tours.
.com.
.com.
Je voudrais parler de Popeye.
Bonjour Astrid et Brigitte.
Bonjour.
Bonjour.
Alors mesdames, vous nous avez préparé une chronique et une lecture. Est-ce que vous voulez nous expliquer déjà quel livre vous avez choisi ?
Oui. Alors nous avons choisi Le Type, qui est un livre écrit par Philippe Barbeau, qui est un coup de cœur qui dure depuis longtemps déjà. Ce type, il est cher à notre cœur et aux sections jeunesse en règle générale. On ne voudrait pas trop déflorer l'affaire avant de vous avoir lu ce livre en intégralité.
Cette histoire est classée dans le réseau des bibliothèques jeunesse de la ville de Tours dans la catégorie album tout public, c'est-à-dire que c'est pour tout public, un petit peu comme pour les albums Tintin, de 7 à 77 ans et plus.
Voilà. Est-ce que vous voulez, avant de commencer votre lecture, est-ce que vous voulez bien juste redonner le titre, l'auteur et l'édition ?
Oui, donc il s'agit du Type de Philippe Barbeau aux éditions de l'atelier du Poisson Soluble. Page arrachée au journal intime de Philippe Barbeau. Le Type. Lundi. Ce matin, je me promenais. J'étais vraiment très bien. La tête dans les étoiles, les pieds dans le bonheur et de la joie sur le bout du cœur. Oh, j'étais vraiment très bien.
Et puis, tout à coup, j'ai remarqué un type à une trentaine de mètres de moi. Il m'a immédiatement paru bizarre. Et en le regardant avec attention, j'ai deviné ce qui clochait chez lui. Il ne savait pas
sourire. À moi, rien ne m'énerve plus qu'un type qui ne sait pas sourire. Alors, j'ai ramassé un caillou. Oh, pas plus gros qu'une noix, et je le lui ai jeté.
Ah bah, il l'a pris en plein dans le menton. Je me suis approchée.
Ça fait mal,
m'a dit le type en grimaçant. Eh, tu n'avais qu'à sourire, lui ai-je fait remarquer.
Sourire ? Je ne sais pas ce que c'est.
Alors là, il m'a énervé encore plus. J'ai failli lui coller une baffe et puis je me suis dit que ça allait encore faire des histoires. Alors, j'ai fourré les mains au fond de mes poches et je suis rentrée chez moi.
Mercredi. À midi, je me promenais. J'étais très bien. La tête dans les étoiles et les pieds dans le bonheur. Ah oui, j'étais très bien.
Soudain, j'ai remarqué un type à une vingtaine de mètres de moi. Le même que lundi. Encore plus bizarre. Je n'ai pas eu à le regarder longtemps. J'ai vite deviné ce qui clochait chez lui ce jour-là. Il ne savait pas
rêver. Moi, rien ne m'énerve plus qu'un type qui ne sait pas rêver. Alors là, j'ai ramassé une pierre. Oh, pas plus grosse qu'une orange. Et je la lui ai jetée.
Ah ben, il l'a prise en plein nez. Je me suis approchée.
Ça fait mal,
m'a dit le type en pleurnichant. Eh, t'avais qu'à rêver, lui ai-je fait remarquer.
Rêver ? Je ne sais pas ce que c'est.
Incroyable. J'ai failli lui coller mon poing dans la figure et puis je me suis dit que ça allait encore faire des histoires. Alors, j'ai fourré les mains au fond de mes poches et je suis revenue chez moi.
Vendredi. Cet après-midi, je me promenais, j'étais bien, la tête dans les étoiles, j'étais bien, enfin, sans plus.
Tout à coup, j'ai remarqué un type à une dizaine de mètres de moi. Le même que lundi et mercredi. Plus que jamais bizarre. Je l'ai à peine regardé et j'ai très vite deviné ce qui clochait chez lui ce jour-là. Il ne savait pas
aimer. Moi, rien ne m'énerve plus qu'un type qui ne sait pas aimer. Alors là, j'ai ramassé un pavé, oh, pas plus gros qu'un melon. Et je le lui ai jeté.
Ah ben, il l'a pris en plein front. Je me suis approchée.
Ça fait mal,
m'a dit le type en pleurant comme une fontaine. Eh, tu n'avais qu'à aimer, lui ai-je fait remarquer.
Aimer? Je sais pas ce que c'est.
Alors là, j'ai failli l'étrangler. Et puis, je me suis dit que ça allait faire des histoires. Alors, j'ai fourré les mains au fond de mes poches et je me suis précipitée chez moi.
Dimanche. Ce soir, je me promenais. J'étais mal. Des nuages me voilaient le moral. J'étais vraiment mal.
Soudain, je suis tombée nez à nez avec le type. Le même que d'habitude. Ha ! J'ai immédiatement deviné ce qui clochait chez lui. Il ne savait ni
sourire,
ni
rêver,
ni
aimer. Tout en même temps. Oh, mais alors là, ah, ça a été plus fort que moi. J'ai ramassé un rocher. Oh, pas plus gros qu'une citrouille. Et je le lui ai jeté.
Le type en avait certainement par-dessus la tête de se prendre des trucs en pleine figure. Alors, alors il s'est baissé. Et derrière, passait une vieille dame. Pouf ! Voilà, le chapeau de la vieille dame. Je m'en suis approchée quand elle le ramassait. Elle s'est tournée vers moi et a soufflé.
Ce n'est pas malin de jeter des pierres à la tête des gens.
C'était la première fois qu'on me disait ça. Je lui demandais, étonnée. Toi, Kessie Maline, tu sais sourire ?
Oui.
Et son visage s'est éclairé d'un formidable sourire. Je n'en avais jamais vu d'aussi beau. Je lui ai demandé surpris. Toi, Kessie Maline, là, tu sais rêver ?
Oh que oui.
Et elle m'a emmenée dans son regard, où j'ai fait un formidable voyage. Je n'en avais jamais fait d'aussi beau. Je lui ai alors demandé, abasourdi. Ah, toi qui es si maline, tu sais aimer ? Et elle m'a ouvert son cœur, où j'ai découvert un formidable amour. Je n'en avais jamais admiré d'aussi beau. Je ne savais plus où j'étais. C'était la première fois que je ressentais ça. Alors, j'ai demandé à la vieille dame, « Toi qui es si maline, où as-tu appris tout ça ?»«
Viens et suis-moi. »
Elle s'est assise dans un coin. Je me suis installée à côté d'elle et d'une voix plus fraîche que l'eau d'une source, elle m'a raconté des histoires.
À partir de demain, je ne jetterai plus de pierres à la tête des gens. Je leur raconterai des histoires. C'est bien plus malin pour les aider à
sourire,
à rêver et à aimer.
Une histoire à méditer.
Voilà, merci mesdames pour cette lecture. Est-ce que vous avez des ouvrages du même auteur dans vos collections ?
Oui, mais ah oui. Pas sur ce sujet-là. Là, c'est un album, il est vraiment particulier. Et en plus, il fonctionne tellement, tellement bien avec les enfants que j'ai peu utilisé les autres du même auteur, en fait. Le type, c'est vraiment un album tout public, comme le disait Brigitte. Les albums tout public ont cette vertu de s'adresser à tous les âges. On ne saura assez le répéter. Là, il y a différents niveaux de lecture. Le message peut sembler consensuel, mais en fait, qu'est-ce que ça signifie soyons gentils, soyons sympas les uns avec les autres, regardons-nous, aidons-nous. Et puis, effectivement, il faut arrêter de se dire des vilaines choses, quoi. La vie est belle, on peut se promener, voir des belles choses. Et puis, même sans se promener, on peut voir aussi des belles choses, notamment à la bibliothèque.
Alors, j'imagine que cette lecture, vous la faites peut-être ici. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous offrez des temps de lecture aux enfants? Comment ça marche?
Alors, on raconte des histoires pendant les heures du conte, hein, tout public. Et puis, on raconte aussi des histoires quand les classes viennent avec leurs enseignants.
Parce qu'on voit quand même que ça vous fait plaisir de lire des histoires, que c'est vraiment ça vous plaît de faire ça. Donc,
Oui, clairement. Oui. Après, c'est sûr que ce genre d'album-là, on ne peut pas toujours le raconter facilement, si ce n'est avec des classes, parce que les heures du conte, en règle générale, sont ciblées sur des classes d'âge. Donc, on n'a pas toujours un public de grands, parce que les grands-enfants, parfois... ne rechignent pas forcément à venir écouter les histoires, mais ça leur paraît peut-être un petit peu enfantin de venir écouter les histoires. Donc voilà, on peut raconter cet album-là avec des classes. Moi, je l'ai beaucoup raconté avec des classes, peu en heure du conte tout public, parce que les heures du conte tout public, on a plutôt des familles.
C'est pour les 0-4 ans,
voilà, avec
0-6
les plus petits,
ans,
ouais. Malheureusement. Enfin, malheureusement, pour cet album-là en tout cas, hein, parce que pour les tout petits, ça reste quand même une belle opportunité d'entendre des histoires. Mais c'est vrai, il faudrait que les plus grands acceptent d'écouter des histoires encore et toujours.
C'est quand l'heure du conte ?
C'est le samedi en règle générale.
Ou le mercredi, ça dépend des bibliothèques.
Tout est indiqué dans le programme des bibliothèques et également sur le portail. Il y a un agenda, vous avez tout indiqué par classe d'âge. Là, il va y avoir plein d'animations également pour les vacances scolaires. Donc, il n'y a pas de souci, il faut aller voir. Il ne faut pas hésiter aussi à se renseigner auprès des collègues. Il y a des heures du conte un peu tout le temps dans l'année.
Voilà. Il y a aussi des heures du conte en langue des signes. Donc il y a une interprète, entre autres, de l'association À Tour de Main. Et on raconte des histoires en collaboration avec cette interprète de langue des signes.
Puis il y a aussi des heures du conte bilingue, tant qu'on y est. Hein, des heures du conte bilingue, donc anglais. Mm. Anglais essentiellement. Donc ça, c'est pareil, ça trouve aussi son public. C'est toujours très intéressant de pouvoir raconter une histoire, une personne en anglais, une personne en français à côté. Ça reste quelque chose quand même de magique. Hein.
Et les heures du conte, généralement aussi, c'est avec des chants comptines. En fonction des bibliothécaires, il peut y avoir des instruments de musique, avec le support musical pour les tout-petits. Donc... voilà, les heures du conte, c'est toujours un moment privilégié pour, à la fois pour les bibliothécaires, mais aussi pour leur public.
Ce qui est très important dans l'heure du conte, c'est qu'en fait, l'heure du conte reste quelque chose, un moment familial. Et ça, c'est important de créer aussi du lien à leur insu, je dirais, au sein même de la famille. Parce qu'il va y avoir une émotion collective entre le papa, la maman, les enfants, enfin, entre toutes les personnes de la famille qui sont là. Et ça, c'est quelque chose de magique dont nous sommes à l'initiative. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fabuleux de pouvoir faire vivre ça.
Voilà, et ben, je sens que les auditeurs vont aller de ce clic sur le site de la bibliothèque pour avoir toutes les informations nécessaires. Merci.
Non, on espère.
Merci à vous.
Merci.
Merci.
Merci à nos bibliothécaires de la Bibliothèque municipale de Tours pour cette lecture de l'album Le Type. Nous écoutons un dernier morceau de Fima et Front dans la Méridienne. Nous écoutons Essédic, Folk Song, toujours sur l'album Soul Machine. Thank you. Pima Effron et la bande son aujourd'hui de cette méridienne. Nous écoutions Acidic Folk Song, venu de l'album Soul Machine. Et pour terminer cette émission, nous réécoutons le contenu sonore. Nous réécoutons la pastille sonore envoyée de Beyrouth au Liban par Daniel. Et elle en dit ceci. C'est un montage de son, de répit et rencontre entre amis d'une manifestation à l'autre. Le montage est joyeux, car nous rions beaucoup, tant il nous faut de l'énergie pour faire tomber le pouvoir en place. Nous écoutons le contenu proposé par Daniel depuis Beyrouth.
Beyrouth, automne 2019. Depuis le 17, nous sommes révoltés. Nous sommes dans la rue. Nous crions, nous dansons, nous chantons, nous parlons, nous partageons. C'est notre révolution.
Quel torchon.
Moi, j'ai pas osé la faire descendre la voiture.
On est le mode barre de gré.
Ah,
bleu en plus, je te l'ai désolé.
La
femme est avec les fifi.
La
fille. Allez, à moi.
T'as filmé un peu aujourd'hui?
Juste là, là, ils font une reconstitution de la crucifixion du Christ et ils crucifient la guerre civile et le communautarisme.
C'est pas vraiment une crucifixion, c'est une pendaison.
Ah oui, pardon, mais c'est pas une crucifixion.
Pardon. Et qui fait ça?
Je sais pas.
Ils prennent la guerre civile et...
La
sectarianisme.
C'est le seul truc que j'ai filmé pour l'instant. Oh, tu fais quoi?
Christ sonore.
Ouais, c'est le moment, quoi.
Bon, ça reste toujours relativement basique et assez normatif, en fait. Hein.
Je t'enregistre.
Non, mais en général, oui, c'est assez passe-partout, petit polo, le jean assez omniprésent, la basket adaptée au terrain urbain, évidemment.
Super tes dessins.
Ça va?
Oui.
Merci.
Toi?
Cadeau.
T'en as marre de les tenir?
Là, bas, كثير.
Merci.
Merci. Allô.
Très très peu de fleurs, on n'est pas dans une révolution des années 60, clairement. C'est beaucoup plus structuré finalement. Pas mal de rouge par touche ou de manière un peu plus assumée, mais c'est la couleur là, qui ressort un peu du lot.
Actually, the more we do of these, I'm really impressed. Like honestly,
J'ai jamais vu ça horreur avec des débats politiques de toutes les classes sociales. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ce que tu vois à la télé normalement, c'est une classe sociale. C'est pas toutes les classes sociales. Mais là maintenant, c'est un truc de ouf. The awareness that's bringing to people is amazing.
Cette méridienne touche à sa fin. Merci à Joseph pour sa chronique littéraire, à Sam, jeune reporter de Bourgueil, au bibliothécaire de la bibliothèque municipale de Tours, à Radio Parleur et à Daniel depuis Beyrouth. Bonne journée à tous, à l'écoute de nos programmes.